Il est 15h30 et je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour pour le début de 90 minutes info. Les thèmes que nous allons explorer et dont nous allons débattre avec nos invités dans un instant, ce sera juste après le rappel des titres. Il est signé Mathieu Devez aujourd'hui.
Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour abus de biens sociaux concernant la société Gosport. Les commissaires aux comptes ont transmis plusieurs révélations de faits délictueux. Le tribunal de commerce doit se prononcer demain sur l'avenir du groupe. Gosport emploie plus de 2000 salariés en France. Une autre enquête ouverte, cette fois-ci pour meurtre et destruction volontaire après un incendie à Rambouillet. Ce matin, le feu a fait 3 morts dans un appartement de cette commune des Yvelines. Selon les premières constatations médico-légales, des violences ont été exercées sur l'adolescent retrouvé mort. Le corps se trouvait auprès de ceux d'une femme qui pourrait être sa mère et d'un enfant de 8 ans qui pourrait être sa sœur. Vladimir Poutine assure n'avoir aucun doute quant à une victoire de la Russie dans son offensive en Ukraine. Le président russe était en déplacement dans une usine d'armement à Saint-Pétersbourg. Une victoire évidente selon lui grâce, je cite, à l'unité du peuple russe, le courage et l'héroïsme des soldats et le travail du secteur militaire et industriel.
Merci Mathieu Devez. 24 heures. Dans 24 heures donc, les syndicats verront si le degré de mobilisation est de nature à encourager la suite de la contestation. Dans les transports, on le sait d'ores et déjà, ce sera très suivi et vous allez l'entendre, les Français ont pris leur disposition.
Trop dur là, les transports surtout, c'est très pénible.
Ouais. Au sein de la société, on a priorisé le fait de se mettre en télétravail ce jour-là précisément.
C'est une possibilité que j'ai à mon travail. Donc bon, je la prends pas forcément, mais là, vu qu'il y a la grève, j'ai vraiment zéro transport, donc exceptionnellement, je mets en télétravail.
Et il y a aussi des craintes nourries de voir les cortèges de manifestants infiltrés par des casseurs. Là aussi, on se prémunit avec des fouilles par anticipation sur le parcours parisien, par exemple.
Nous nous préparons sur le fait qu'il y ait du monde, et il y a plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 500 à Paris. On a, d'après les informations et des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents, soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, ou des ultra-gauches.
Et nous parlerons aussi de ces actions choc, de ces représailles contre des élus qui sont favorables à la réforme et qui se multiplient. On avait déjà parlé des menaces de coupure d'électricité. Hier, une permanence a été vandalisée en Gironde.
Je crois qu'en politique, il faut savoir dire quand ça va trop loin. Voilà, il faut savoir fixer des limites et encourager et valoriser notre état de droit qui existe dans une démocratie.
Aujourd'hui, pour m'accompagner autour de cette table, Judith Vintraube, bonjour. Ravie de vous retrouver. Bonjour. Grand reporter au Figaro Magazine. Éric Deride-Matten est là, bonjour, à vos côtés également, qu'on ne présente plus, service économie de la rédaction. Benjamin Morel, bienvenue, bonjour, à vous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit constitutionnel. À vos côtés, Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur, merci à tous d'être là. Alors, à l'heure qu'il est, la plupart des Français ont sans doute pris leur disposition pour demain dans les villes de France qui seront touchées par la grève à l'appel de l'intersyndicale, sans qu'on sache d'ailleurs précisément encore le degré de mobilisation. Mais dans les transports, le ton semble donné. Il a bien fallu anticiper. Regardez ce jeudi de galère vu par les Français. Le commentaire est signé Célia Judas.
À quelques heures du début de la grève, il y a deux types de voyageurs. Les mécontents.
On va être emmerdé, hein. C'est tout ce que je pense. Hein. Ça ne sert à rien ce qu'ils sont en train de faire.
Ils nous emmerdent. Vous croyez que c'est normal ou...
C'est trop. Ça fait encore un mouvement de trop.
Oh, c'est trop dur, là. Les transports, surtout, c'est très pénible.
Et les autres, qui considèrent la raison de ces grèves plus importante que les perturbations qu'elles engendrent.
Je trouve que c'est important de défendre ses droits aussi. Du moment que ça ne dure pas plusieurs semaines.
En fait, on revient à une forme d'esclavage, en fait. On nous demande de travailler plus, mais pourquoi faire?
Ça embête tout le monde. Tout le monde, c'est sûr, mais je pense que pour une cause qui est justifiée.
Donc. Je comprends, mais j'espère que ça ne va pas être répété dans le temps.
Je comprends ce mouvement. Après, de prendre des gens en otage, c'est pas top.
Avec un réseau de transport qui sera très perturbé, les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter.
Demain, je vais faire du télétravail. Je reste à la maison.
J'ai cette chance de pouvoir me mettre en télétravail.
Pour ceux qui ne peuvent profiter du télétravail, il faudra prendre son mal en patience. SNCF et RATP annoncent une grève très suivie jusqu'à vendredi matin.
Jonathan Sixou, on les sent un peu tiraillés, c'est-à-dire entre la nécessité d'assurer le quotidien et puis la projection quand même que chacun fait pour soi-même, parce que tout le monde est concerné au premier chef. Mmh. C'est l'une des rares mobilisations, la mobilisation contre la réforme des retraites, qui touche vraiment tout un chacun en fait.
Tout le monde est touché, vous avez parfaitement raison de le souligner. Je note tout de même concernant le cas précis des transports, et on le voit micro-trottoir après micro-trottoir, conflit après conflit, que ce sont toujours les mêmes finalement qui encaissent. Ce sont toujours les mêmes qui doivent se lever plusieurs heures plus tôt pour tenter de trouver un train bondé. Ce sont toujours les mêmes qui ne peuvent pas, parce que tout le monde ne fait pas un métier qui pourrait se faire en télétravail. Ce sont toujours les mêmes qui doivent poser des jours pour pouvoir garder des enfants. Vous voyez, on ne touche pas là le haut de la société, évidemment. Ensuite, tout le monde est concerné par cette question des grèves, des retraites, vous avez entièrement raison, mais ça relève aussi d'une question quasi philosophique qu'on ne peut pas aborder rapidement ni à l'échelle de la société. Ça devrait être un long débat, peut-être que Emmanuel Macron pourrait se lancer dans l'aventure. Mais regardez, vous venez de passer un homme qui dit travailler plus, mais pour quoi faire ? Mais, oui. Alors il y a la question de la pénibilité du travail qui est une chose évidente qui nécessite d'être approfondie, mais le travail c'est aussi, tout le monde ne descend pas à la mine, le travail c'est aussi l'épanouissement, le travail c'est aussi la reconnaissance d'autrui, et le travail, si vous voulez, ça n'est pas, la vie de travail n'est pas un long purgatoire avant le paradis de la retraite, d'autant que les retraites, on le voit, ne sont en majorité pas très élevées.
C'est vrai qu'il y a cette notion, quand même, Julie de Vintrop, qu'il a raison. Le travail est parfois perçu comme la sanction ultime. Alors, on pourrait aussi revenir sur le fameux droit à la paresse invoqué par Sandrine Rousseau, mais si tout le monde s'y met, du bien-être de la collectivité dépend aussi la productivité de chacun, quoi.
Mais il y a toujours un décalage très frappant entre les réponses que les Français font sur leur bonheur individuel au travail et la vision du travail telle qu'elle est véhiculée en France, notamment par les syndicats, mais pas seulement, par une grande partie des formations de gauche, qui est directement héritée du concept marxiste de travail aliénation. Combien de fois vous avez passé des jeunes gens qui avaient sans doute à peine la vingtaine qui étaient en train de nous expliquer que la réforme des retraites leur gâchait leurs plus belles années.
On parle même d'une mobilisation potentielle des lycéens quand même.
Des lycéens, c'est on a envie de rire et de pleurer à la fois parce qu'on se dit voilà des jeunes qui ne pensent pas qu'ils puissent s'épanouir, trouver des centres d'intérêt, créer des relations sociales, s'amuser au travail.
Ils ont dit on veut profiter de notre retraite, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais.
Alors, Garcin Lazare, on va continuer avec les retours d'expérience et puis le degré de préparation, parce que là quand même ils ont eu le temps de voir venir les choses, et puis je me tourne vers vous Benjamin Morel. Garcin Lazare, vous le savez, c'est le point d'arrivée de nombreux salariés à Paris, au carrefour des trains et des transports franciliens. Une de nos équipes a pris le pouls de cette organisation. Jeanne Cancard était sur place.
Eh bien Nelly, la plupart des usagers que nous rencontrons ici à la gare nous expliquent qu'ils ont dû poser une journée de congé pour ce jeudi, à défaut de pouvoir prendre les transports en commun. D'autres nous expliquent qu'ils seront en télétravail la plupart du temps. Eh bien, c'est leur employeur lui-même qui a demandé à ses salariés de rester à la maison. Mais voilà, tous les métiers ne peuvent pas être exercés à distance. Alors pour certains, eh bien, c'est beaucoup de système D qui s'improvise. On croise parfois des usagers qui sortent avec un petit sac, une petite valise. Ils nous disent, je pars pas en week-end, je pars pas en vacances, mais je vais dormir ce soir chez un ami qui habite près de mon lieu de travail. On a même rencontré tout à l'heure une sage-femme qui nous a dit « J'envisage même de rester dormir ce soir à la maternité ». Ou encore tout à l'heure une enseignante qui travaille en banlieue parisienne. Elle nous a dit « Je suis gréviste, tous mes collègues sont grévistes, l'école demain sera fermée, je veux participer à cette mobilisation. Mes problèmes pour l'instant, je ne sais pas comment me rendre ici à Paris ».
Il y a quand même cette nouvelle composante depuis la crise Covid qui n'existait pas avant. C'est vrai que la notion télétravail quand même et vient aussi alléger et assouplir un peu le dispositif.
Ça peut venir un peu alléger le dispositif, mais très très clairement, ça reste malgré tout marginal. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une possibilité de blocage qui plus est par quelques salariés. C'est-à-dire c'est l'une des grandes différences peut-être avec des grèves passées. Aujourd'hui, les syndicats ont compris qu'il n'est pas forcément besoin d'avoir une grève générale extrêmement importante pour être bloquant. Et ça, c'est important parce qu'au-delà du taux de grévistes, eh bien, une grève générale longue, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que vous n'êtes pas payé, etc. Si vous arrivez à mettre en grève de manière tournante les bonnes personnes, vous pouvez arriver à tenir sur le long terme une grève qui peut être assez populaire. Quand on regarde les enquêtes aujourd'hui, cette grève, elle est plutôt populaire. Regardez 95. La popularité de la grève, malgré les blocages, etc., va croissante. Elle ne s'effondre pas non plus en 2019-2020. Plus longue grève de la 5e République et on a un taux à peu près stable de soutien à la grève. Et ça, pour le gouvernement, c'est embêtant parce que si jamais on a une grève longue, soutenue par une grande partie de l'opinion qui fait grève par procuration, parce que le sujet des retraites est par définition un sujet très concernant et assez impopulaire, eh bien ça devient un problème politique.
Alors puisque vous l'abordez, venons-en effectivement à ce degré d'adhésion. D'abord à la réforme, on sait qu'elle est largement contestée, comme vous le disiez, mais chiffres à l'appui, on va voir ce que ça donne, une sorte de camembert, hein, comme on fait à chaque fois. Êtes-vous pour ou contre? Sans grande surprise, 61% contre, 38% pour, avec des petites subtilités, évidemment, en fonction de là où on se place sur l'échiquier politique. Et puis, quand on regarde ce qu'il en est des blocages envisagés, qui sont effectivement la partie un peu affinée hein, de la mobilisation, là, en revanche, 50% désapprouvent la méthode, quand 49% l'approuvent. Donc on voit quand même que... Il y a encore un sentiment de se dire il faut que la démocratie prévale et qu'il n'y ait pas d'entrave au mouvement des uns et des autres. J'aimerais qu'on en vienne à ce qui se passe du côté de l'éducation nationale. On va sectoriser un petit peu et je me tourne vers vous, Eric. On ne va pas déflorer votre chronique parce que précisément vous êtes penché sur ce qui s'est passé en 1995 et 2010. On verra avec les chiffres aussi tout à l'heure, mais on va voir ce qui se passe du côté des parents. On sait maintenant, en tout cas dans le primaire, pour les collèges et lycées, ils peuvent dire le jour même le corps enseignant, ceux qui ont l'intention de faire. Il faut en revanche donner un préavis de 48 heures pour ce qui est du primaire. C'est le cas. 70% a priori de grévistes du côté de la SNUIP FSU. Et donc, il a bien fallu s'organiser pour faire garder les enfants. Reportage à Nantes. Mickaël Chailloux, Jean-Michel Decazes.
Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel au privé confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé.
On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc c'est compliqué.
Vous êtes obligé de rester chez vous?
Oui.
De prendre une journée de congé?
C'est ça.
Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en ces jours de grève.
Il n'y a pas d'école jeudi, en tout cas pour mon fils qui est dans le public. La nounou est ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu différentes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
Dans cette entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent.
Les nounous sont prévenus que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait, donc sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi et puis pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver.
Train, après je prends le bus et après le tram. Donc à partir de jeudi c'est la grève, donc ça va être très compliqué.
Pour aller garder les enfants.
Voilà.
Les nourrices qui pratiquent la garde à domicile espèrent arriver à l'heure chez les parents.
Alors, Éric Dorine-Mattel, on voit quand même à travers ce reportage le degré injuste et pénalisant de cette grève, parce que si on travaille dans le tertiaire, ça marche, on peut effectivement télétravailler. Quand on assure un métier, je ne vais pas dire plus essentiel, parce que le tertiaire c'est essentiel aussi, mais plutôt première ou deuxième ligne, comme on les appelle désormais, on est un peu forcé de poser un jour de congé. Donc de toute façon, il y a quand même, c'est quand même pénalisant pour certaines catégories socio-professionnelles.
C'est pénalisant pour les parents, parce que ce sont des dépenses en plus, hein, parce qu'il faut appeler la nounou, s'organiser. Perdre une journée de travail, peut-être, c'est pas impossible. Enfin, si on pose une RTT, c'est quand même un RTT en moins pour faire autre chose. Et puis, on pense pas aux entreprises, mais c'est une perte importante. Alors, on dit que c'est rattrapé, parce que quand on perd une journée, et peut-être deux d'ailleurs, parce que vendredi risque d'être une journée morte, si les gens font le pont, c'est vrai, on parle du fameux pont de la grève. Jeudi, c'est la grève, donc personne travaille. Et vendredi, puisque après tout, on va pas retourner au charbon, comme on dit, on va rester à la maison. Donc, ça fait quatre jours avec le week-end. Il y a ça. Maintenant, je termine par un point. Il y a une certaine injustice. Parce que vous avez effectivement le secteur privé qui ne peut pas se mobiliser, qui ne peut pas descendre dans la rue pour manifester. C'est très dur quand on a un patron de lui dire « demain je vais manifester », alors que dans le secteur public qui est protégé, il faut le rappeler quand même, il y a des avantages qui sont quand même supérieurs à bien des égards. Là, il suffit de dire à son chef de service « je participe à la grève » et en général c'est bien vu quand on dit ça. Voilà, vous voyez, la différence de traitement est à mon avis vraiment injuste.
Moi, mais c'est peut-être un aspect solidarité, c'est-à-dire que les salariés du secteur privé finiront peut-être par remercier ceux de la fonction publique.
Oui, ça, c'est le fameux thème de la grève par procuration qui m'a toujours beaucoup énervée, parce que déjà, moi, personne ne m'a jamais demandé mon avis en me rendant le service de faire grève à ma place. D'une part. D'autre part, moi aussi j'ai vécu les 5 semaines, je crois, de mobilisation contre la réforme des retraites Juppé en 1995. Donc, je marchais, comme tout le monde, sous la pluie, parce qu'il faisait pas beau.
Dans les manifs.
Et non, ça, pour aller au travail.
Le covoiturage était très en vogue à l'époque, souvenez-vous.
Oui, mais comme ça, dans les rues de Paris, ça n'avançait pas du tout. Parfois, on allait quand même plus vite à pied.
Il y a beaucoup d'embouteillages.
Et alors, à ma modeste échelle, je n'ai jamais croisé personne qui me dise c'est formidable cette grève, c'est un bonheur chaque jour renouvelé. Je ne vais pas mettre en doute les sondages, hein, évidemment, ouais. qui sont précieux et qui donnent des informations. Mais je ne ressens pas cette jouissance et cette reconnaissance des gens qui sont emmerdés par les grévistes vis-à-vis des grévistes.
Alors, parlons aussi des choses qui fâchent et du fond. L'exécutif a voulu battre en brèche certaines idées distillées par les détracteurs de la réforme, notamment sur la mortalité, vous savez, liée à un travail qui dure trop longtemps. Écoutez à ce propos Olivier Véran et je vous fais réagir.
Alors, depuis plusieurs semaines, je le disais, les retraites alimentent, et c'est normal, bon nombre de débats et de conversations. Naturellement, c'est la vie de tout sujet qui devient viral. Hélas, il y a aussi des fausses informations qui circulent. Toutes ne partent pas d'une intention malicieuse, mais quelle que soit leur origine, ces fausses informations, elles sont problématiques à partir du moment où elles falsifient la réalité et qu'elles font peser un risque de polarisation dans notre pays. Nous ne pouvons pas le lundi critiquer outre-Atlantique les effets délétères et violents de la post-vérité et de la désinformation, et le mardi, les laisser vivre chez nous. Alors non, 25% des Français ne sont pas morts à l'âge de la retraite.
Il se garde bien, Jonathan Sixou, d'employer le terme de fake news quand même, mais bon, il dit fausses informations.
Ah bah, c'est un ministre de la République.
Non, mais bon, ça
n'a
pas la même connotation en anglais de nos jours et depuis ce qui s'est passé, évidemment, notamment outre-Atlantique sous Donald Trump. Néanmoins, voilà, il y a un certain nombre d'informations, effectivement, il le dit bien, qui sont distillées, qui sont véhiculées, et une fois qu'elles sont un peu lâchées dans la nature, on les prend pour acquises, pour argent comptant. C'est vrai que personne ne s'est penché réellement sur la question de ce 25% de mortalité.
Si.
On a vérifié l'exécutif. Alors, Jonathan Sixou, et puis après, vous me donnerez vos chiffres.
Ça a été vérifié le jour même, d'ailleurs. C'était le...
Alors, comment c'est parti, cette rumeur?
Ben c'est, je crois que c'est Emmanuel Bompard qui l'a affirmé tout de go sur l'antenne de je ne sais plus si c'était RTL ou France Inter, mais il a, dans une matinale, il a clairement...
Donc, LFI ne vérifierait pas ces informations?
Ah mais non, pardon, il l'a dit chez Laurence Ferrari ici.
Oui, mais donc LFI ne vérifierait pas ces informations.
Ben non, mais c'est, je pense que c'est dans ce cas-là un mensonge volontaire. Et Olivier Véran a parfaitement raison de dénoncer cela, parce que on voit bien que c'est devenu une façon de faire de la politique. Le mensonge a toujours évidemment existé en politique, mais là, c'est de diffuser de fausses infos, fake news ou pas fake news en français ou en anglais si vous voulez. C'est une façon d'alimenter le débat politique aujourd'hui qui est délétère et assez inquiétant, parce qu'on voit que ça prend, ça marche. Les gens sont sur leurs réseaux sociaux et tout, ils rebalancent des infos à une rapidité inédite jusqu'à présent dans l'histoire. Et c'est très, très embêtant. C'est très, très embêtant pour, pour le débat politique en lui-même, qui est vidé de sa substance, et de l'image même de la politique, qui est dramatiquement touchée aussi.
Heureusement, donc, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le fact-checking. Hein ?
Oui, bah, tout le monde l'a fait. Hein. C'est 5% des hommes les plus pauvres, des hommes uniquement, et à un niveau... de pauvreté en dessous de 400 euros, qui indique que ce sont des gens qui n'ont pas ou très peu travaillé. Donc il ne s'agit pas du tout de la retraite, puisqu'il n'y a pas eu de travail, ou en tout cas tellement marginalement que ça ne compte pas comme des années d'usure au travail.
Il s'agit peut-être plus d'un environnement qui était défavorable dans leur existence.
Bah, ça va avec tout quand vous êtes...
Éric, vous avez un peu débroussaillé tout ça. Vous avez démêlé le vrai du faux.
C'est-à-dire que j'ai appelé l'INSEE, donc ils ont 5 catégories, hein, et donc on est catégorisé. Et à l'intérieur de ces catégories, il y a 5% de très très pauvres. Et effectivement, c'est 25% de cette catégorie très très pauvre qui meurt à 62 ans, malheureusement. Si on regarde maintenant, alors à l'opposé, les très riches, les très aisés, puisqu'il faut dire aisés maintenant, c'est 6% de taux de mortalité. Toujours dans cette petite partie, donc, de la cinquième catégorie, qui fait partie, donc,
des plus aisés. On est bien loin des 25.
Voilà, on est loin. Et si vous regardez la moyenne, puisqu'il fallait quand même voir la part de ceux qui meurent à 62 ans, âge légal actuel de départ à la retraite, c'est 13% hommes-femmes. Et les femmes seulement, 7%. Vous voyez, on est loin quand même, c'est moitié moins pour la moyenne générale en France de personnes qui décèdent à 62 ans.
Ce que ça nous apprend quand même, Benjamin Morel, c'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe, en fait.
Mais on est dans un débat politique qui, aujourd'hui, comme ça a bien été dit, passe par des canaux qui sont des canaux un peu différents. C'est-à-dire que les grandes émissions de débat où on échange argument contre argument sont devenues aujourd'hui moins importantes qu'un tweet sur les réseaux sociaux avec un chiffre qui va passer, qui par ailleurs va être déformé, et des éléments de langage qui parfois ne sont pas compris par ceux qui les disent. Ce qui explique souvent beaucoup de fake news et d'erreurs. Donc cette situation-là, évidemment, n'est pas saine pour le débat public. Mais je dirais que ce n'est pas une cause de Manuel Bompard ou de la FI. C'est-à-dire que quand vous écoutez aujourd'hui tous les partis sur cette réforme, vous avez en effet beaucoup de faux-semblants, beaucoup d'éléments qui sont extrêmement discutables. Donc il va falloir qu'il y ait un vrai débat. Moi, ce qui m'inquiète en réalité, ce n'est pas tant ces fake news sur cette réforme. C'est le fait qu'on est en train d'étouffer le débat. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale avec le 47-1 utilisé par le gouvernement, c'est qu'en 20 jours, commission compris, on ne va quasiment pas débattre. On va avoir une commission qui ne va rien pouvoir modifier.
Mais à cause de l'obstruction
Pas à cause de l'obstruction.
Mais si,
c'est la désolée. Première fois qu'on fait ça, et disait le canard enchaîné, même Laurent Fabius s'en indigne. Et donc il n'est pas sûr qu'à la fin, on n'ait pas une réforme annulée par le Conseil constitutionnel et on ne soit pas obligé de recommencer dès le début. Donc là, on est en train aujourd'hui de tuer le débat. Et en tuant le débat, eh bien, on ne favorise pas demain l'acceptation de cette réforme, qu'elle soit nécessaire ou pas, par les Français.
Donc l'idée, c'est qu'on dépose le moins d'amendements possible, en fait.
C'est... Non, le plus. La France Insoumise a promis
20 jours.
Mais en 20 jours, en réalité, commission comprise, ça veut dire qu'on va arriver à l'article 2. Et ça veut dire que même M. Ciotti ne va pas être très content, parce que s'il avait un amendement à l'article 4, M. Ciotti, on ne l'examinera pas. Ouais. Et donc, à partir de là, même les revendications de LR ne sont pas évidemment considérées dans le cadre de cette réforme. Donc là, on va avoir un souci qui va être un souci politique.
Non, mais Emmanuel, il aurait fallu combien de temps pour permettre à LFI de faire déposer 1000 amendements par jour et par membre de son groupe ?
Sur un tel texte...
Si c'est ça le critère, s'il faut laisser chaque groupe faire tout ce qu'on veut,
mais
allons-y.
Judith, vous savez très bien que depuis 2008, il existe quelque chose qui s'appelle le temps législatif programmé.
Oui.
Si on avait été intelligent, on aurait pu déposer un projet de loi ordinaire et mettre en place un temps législatif programmé, ce qui aurait permis d'examiner le texte dans des conditions pas trop mauvaises. En évitant l'obstruction, ça a été pensé pour ça. Là, il s'agit en réalité d'éviter.
Ben, bien sûr que si. Prouve que ça suffit.
Bien sûr que si. 2019-2020, justement, la réforme de 2020, ils ne l'ont pas utilisée. Parce qu'à l'époque, vous avez Richard Ferrand qui dit « Moi, je vais y arriver, je suis un cador. » Résultat, ils ne l'emploient pas. Et on arrive au 49 alinéa 3. Là, ils pouvaient l'employer.
Ben voilà.
Allez, on va parler à nouveau de cette réforme des retraites. Dans les chiffres, on va la comparer à d'autres mobilisations dans le passé. Vous y avez déjà fait référence, 95 et 2010. C'est tout de suite, c'est la chronique d'Éric de Rinmatan.
Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Éric, peut-on faire mieux que dans les années 90 ou 2010, sachant que maintenant, a priori, le volume, le nombre n'est pas forcément la clé du succès ?
Non, mais c'est quand même la mobilisation. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une jauge, c'est 1 million. Si on est au-dessus d'un million, le gouvernement tend l'oreille et dit « Ah, quand même, en dessous, ça risque d'être difficile ». Alors, j'ai regardé les chiffres. 1995, c'était la grande série de manifs. Hein. C'est peut-être encore maintenant loin pour nous, mais c'était la première réforme anti-retraite. C'était celle d'Alain Juppé. Il y avait 2 millions de manifestants dans les rues. Et là, je donne les chiffres de la police, des autorités, parce que les syndicats estiment toujours au-dessus. On a eu 270 cortèges. On n'avait pas vu ça depuis 1968 et 3 semaines de grève dans les transports. La réforme a été retirée parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de mécontents.
Il y a eu une déperdition quand même, hein. C'est 3/4 moins.
Voilà, et je précise qu'à l'époque, on devait passer de 37 ans à 40 ans de cotisation. 37 ans et demi à 40 ans de cotisation. On en a 43 aujourd'hui. Deuxième conflit majeur, 2010. Là, on manifeste contre la réforme d'Éric Woerth. C'était le ministre du Travail à l'époque, sous Nicolas Sarkozy. Il fallait reporter l'âge de la retraite, de l'âge légal de départ, de 60 à 62 ans. On y est, 62 ans. C'est passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 14 jours de grève. Beaucoup. Mais on a eu 1 million de manifestants. Donc, vous voyez, c'est la limite. Mais le gouvernement a résisté quand même. Ça a tenu. Et donc, la réforme est passée. Demain, 19 janvier 2023, on dit 1 million, on dit 500 000. On ne sait pas. En tout cas, si on est au-dessous d'un million ou au-dessous de 500 000, là, on peut être sûr que le gouvernement se frottera les mains parce qu'il dira on peut réformer.
D'accord, mais enfin, il y a la durée aussi. Si ça s'inscrit dans le temps, on parle des 5 semaines.
Bien sûr.
On verra ce que ça donne le 26, entre, le 6.
Entre les manifs massives et les blocages, la capacité de nuisance n'est pas du tout la même.
Allez, c'est vrai, vous avez raison de dire que la durée, parce qu'il y avait énormément, il y avait eu 14 jours de grève, et dans l'autre cas, 3 semaines, hein, en 1995.
Voilà, c'était la chronique. Merci beaucoup.
C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier, design et décoration.
On reste ensemble, une courte pause et puis on reviendra pour bien sûr parler de cette mobilisation puisqu'on est à 24 heures maintenant de cette journée test, de ce jeudi que certains présentent déjà comme un jeudi noir. On verra aussi ce qu'il en est du côté des cortèges. Sont-ils sécurisés adéquatement? Y a-t-il des risques que les casseurs s'infiltrent également? On en parle notamment avec un représentant de la police. À tout à l'heure. À 16h, un nouveau rendez-vous de l'info en compagnie de Mickaël Dorian. C'est son JT. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. La journée de demain s'annonce compliquée dans les transports et notamment dans les trains. La SNCF a dévoilé hier ses prévisions de trafic. Un TGV sur 3 seulement sur les axes nord et sud-est, un TGV sur 4 à l'est et un TGV sur 5 sur l'axe atlantique. Et les voyageurs s'organisent déjà puisque la grève débute officiellement à 19h. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux.
Je pense que je vais plutôt soit dormir à côté de mon lieu de service pour être là demain. C'est ce que j'ai opté de faire.
Au sein de la société, on a priorisé le fait de se mettre en télétravail ce jour-là précisément. Et si la grève venait à continuer, on prendrait des jours de télétravail également.
C'est une possibilité que j'ai à mon travail. Donc bon, je ne la prends pas forcément, mais là, vu qu'il y a la grève, j'ai vraiment zéro transport, donc exceptionnellement, je mets en télétravail.
Et toujours concernant la mobilisation de demain, le MEDEF prévoit une faible participation du secteur privé. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, présentait ses vœux à la presse tout à l'heure, on l'écoute.
Ce que j'observe aujourd'hui, mais ça peut changer, je peux me tromper, c'est que la mobilisation est certainement très forte dans les secteurs publics. On ne voit pas de mobilisation forte dans les entreprises privées à ce stade. Mais encore une fois, je suis très prudent parce que l'expérience montre que personne n'est vraiment capable de prédire comment évolue un mouvement social dans notre pays.
Autre sujet à présent, celui de l'inflation face à l'augmentation des prix des matières premières et des prix de l'énergie. De nombreux artisans se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté. Exemple avec les bouchers pour qui le prix du papier qui sert à emballer la viande a doublé. Reportage en Gironde de Jérôme Rampenou.
Franck est boucher depuis plus de 20 ans et comme beaucoup de ses collègues, il subit les augmentations de plein fouet.
La viande, l'emballage, les charges administratives pures à un commerce. Et donc l'électricité est arrivée par-dessus et a appuyé sur là où ça fait mal.
Il hésite à adapter ses jours d'ouverture pour réaliser un maximum d'économies. Le mardi, par exemple, il y a peu de clientèle.
Aujourd'hui, mardi, tout est allumé. Hein. Bon, les chambres froides tournent 7 sur 7, 365 jours sur 365 jours. Mais les lumières, on peut économiser. Ce matin, j'ai le labo qui est éteint. J'ai le four qui est éteint. J'ai éteint le cumulus parce que j'ai fini ma vaisselle. Voilà, j'éteins des choses fur et à mesure. Mais je ne peux pas éteindre l'enseigne pour montrer que voilà, ça, je dois le laisser allumer. Donc ça consomme quand même.
En Gironde, de nombreux bouchers connaissent des difficultés. Nathalie Coulon est coprésidente du syndicat des bouchers de Gironde et elle craint qu'une grande partie de ses artisans ne disparaissent prochainement.
Les entreprises en très très grosse difficulté, il y en a au moins une cinquantaine, qui sont presque prêtes à fermer dans les jours qui viennent. Rien qu'en Gironde.
Pour les clients, cette perte serait catastrophique.
C'est malheureux pour eux parce qu'ils vont être dans la peine, dans le désarroi certains, bien sûr, comme ça s'est passé déjà.
Qu'ils aient du monde ou qu'ils n'aient pas de monde, leur frigo, il faut qu'il marche. Ça fait partie. Enfin, ce sont des frais fixes sur lesquels on ne peut pas tirer une croix.
Une cagnotte a été mise en place par le syndicat pour essayer de sauver en urgence les plus touchés, mais il craint que cela ne suffise pas.
Deuxième jour de procès dans l'affaire Axel Daurier à la cour d'assises du Rhône. Cette jeune femme avait été mortellement percutée par une voiture en juillet 2020. Le conducteur du véhicule et son passager sont jugés jusqu'à vendredi au palais de justice de Lyon. Et aujourd'hui, ce sont les témoins du drame qui sont entendus. On écoute l'avocat du conducteur, maître David Metaxas.
On avait quand même des témoignages, notamment celui des jeunes femmes qui affleuraient dans le dossier. C'est sorti à l'audience. Et effectivement, c'est un groupe de 4 jeunes femmes sévèrement agressées, verbalement, physiquement. On casse leur voiture, on la traîne par terre, on la sort manu militari de sa voiture. Et Youssef est intervenu en défense pour dire à ces gens, arrêtez en fait de faire ça, et ça s'est retourné contre lui. Il y a même un membre du groupe hier à l'audience qui l'a dit. Son seul tort, c'est d'être intervenu dans cette agression.
Et puis Microsoft va licencier 10 000 employés dans le monde. Le groupe informatique américain a annoncé aujourd'hui une série de mesures d'économie. Il précise avoir pris cette décision en réponse aux conditions macroéconomiques et aux changements de priorité des clients. Un plan de licenciement qui impacte un peu moins de 5% de ses effectifs. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue cet après-midi en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup Mickaël, et on va reparler bien sûr de la mobilisation contre la réforme des retraites. Baromètre d'un mouvement de fond ce jeudi est aussi la journée de tous les dangers, risques dans les cortèges, groupuscules, casseurs seront-ils tentés d'en découdre avec les forces de l'ordre? Il y a 200 cortèges qui sont prévus un peu partout en France. La mobilisation de ces forces de l'ordre sera-t-elle à la hauteur? Écoutez ce qu'en disait Gérald Darmanin en présentant le dispositif.
Nous nous préparons sur le fait qu'il y ait du monde et il y a plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 500 à Paris. On a, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents, alors soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, ou des ultra-gauches. Et donc il nous faut absolument distinguer ceux qui viennent dans les manifestations et qui sont l'immense majorité, j'imagine, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser.
Bonjour Jean-Christophe Couvier, merci de nous rejoindre. Vous êtes secrétaire national d'unité SGP. 3500 policiers mobilisés à Paris. Est-ce que c'est conséquent? Est-ce que c'est conforme, au fond, à ce genre de mobilisation?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, c'est ce qu'on avait à l'époque des Gilets jaunes. C'était quand même un dispositif assez conséquent. Demain, je rappelle encore une fois que l'immense majorité, 99% des gens vont aller dans la rue pour manifester pacifiquement et vraiment pas pour casser. Comme dit le ministre, ça va représenter quoi, un petit millier d'agités qui vont venir pour essayer encore une fois voilà, de faire une razzia sur tout ce qui représente le capital, tout ce qui représente l'État. Et bien sûr, s'ils peuvent se taper du flic, se faire du flic, voilà. Donc ça, encore une fois, nous, demain, et les confédérations sont très briefées parce qu'elles n'ont pas envie que ça leur échappe. C'est un grand rendez-vous populaire et qui ne doit surtout pas être entaché par des violences qui pourraient être commises par, par un petit millier de personnes, encore une fois, qui est là que pour emmener le chaos, en fait.
Avec quand même une situation un peu inédite cette fois aussi, c'est qu'il y aura des policiers en nombre dans les cortèges. Ça peut changer la donne aussi?
Alors, il va y avoir des policiers, effectivement, parce que nous tous sommes concernés. Donc, on ira dans le cortège en fonction de notre confédération d'attache. Mais écoutez, j'ai cru comprendre même qu'on avait peut-être des risques, nous, personnellement, si l'extrême-gauche, l'ultra-gauche, j'allais dire, voulait en découdre avec nous. Nous, encore une fois, demain, on vient pas pour faire le coup de poing. Hein. Nous, on vient pour défendre nos retraites. On vient pour être à côté des Français parce qu'on est, impactés, nous aussi, par cette retraite. On prend, comme je dis, deux ans ferme. Sans sursis. Bien sûr qu'on va être vigilant. Mais encore une fois, on fait confiance aussi aux services de sécurité des confédérations et à mes collègues qui vont travailler, qui sont sur le terrain et qui ont des instructions claires, c'est d'interpeller dès lors qu'on voit des groupes un peu suspects, de tout de suite être proactifs.
Alors, le ministre de l'Intérieur, dans cette prise de parole, il a aussi parlé de l'anticipation des risques de violence avec des fouilles préalables dans les périmètres concernés. On va l'écouter et puis je vous en demanderai peut-être un petit peu plus derrière.
D'accord.
Depuis ce matin, il y a de nombreux contrôles, notamment à Paris et autour de Paris, mais aussi dans les grandes villes, qui nous permettent de pouvoir faire des contrôles. Parce que dans des manifestations, on ne se balade pas avec des couteaux, on se balade pas.
Donc
avec
dès
des
ce
marteaux.
Matin, plus de 24 heures avant, pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des choses cachées sur le parcours,
c'est pour exactement être très clair. Le principe général, c'est qu'on vient quelques heures avant, on dépose des marteaux, des casques, des gaz lacrymogènes dans des buissons, et puis lors du parcours, on vient les récupérer. Donc c'est ça qui permet évidemment de lutter.
Ça va être fouillé aussi, ces lieux, pardon.
Exactement. Puis le nombre de caméras de vidéoprotection désormais à Paris nous permet de faire ce travail aussi de manière vidéo-surveillée, mais évidemment, c'est le cas depuis ce matin.
C'est un fait nouveau, ça, ou ça fait partie d'un dispositif dit classique pour vous?
Ce n'est pas un fait nouveau, parce qu'on l'avait déjà utilisé sur des manifestations un peu violentes, notamment avec les Gilets jaunes, où on essayait carrément de mettre des petits sas, de faire du tri, et vraiment de filtrer. Alors après, attention, comme on dit, il y a aussi, parce que c'est, vous savez, l'ultra-gauche, elle est quand même organisée, donc effectivement, là, la veille, des manifestations, on fait tout le parcours et tous les alentours et on regarde notamment les chantiers et tout ce qui pourrait servir de projectile. Donc on fait déplacer, on fait fermer les chantiers, on mettra des forces devant ces chantiers pour éviter que les gens viennent par exemple prendre des pavés, des ustensiles, de tout ce qui peut servir de projectile. Et puis aussi on s'est rendu compte que l'ultra-gauche savait se débrouiller, par exemple ils font du Airbnb, voilà, donc ça leur arrive à l'avance quand ils le savent de louer des appartements ou des petits studios et de stocker du matériel. Donc là aussi il faudrait être vigilant parce que ou dans des voitures aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait sur le trajet, on essaie d'enlever que tout soit clair. Voilà.
Restez avec nous, on continue de vous faire réagir à ce que disent aussi nos invités. Ce qu'on voit, Judith Weintraub, c'est que c'est un peu la course contre la montre, à qui sera le plus audacieux, le plus rapide. Il faut toujours avoir une longueur d'avance sur l'autre, quoi.
Oui, absolument. On est malheureusement habitués à voir cette violence dans les cortèges depuis 2018, hein, en fait, depuis la loi Travail, dite loi El Khomri. Ça n'a cessé d'augmenter. Mais je trouve que le climat général du côté des opposants à la réforme de gauche et syndicale incite à ce genre de violence. Alors, eux seraient les premières victimes si jamais les troubles, la casse, sabotaient les
brouillent le message.
Brouillaient le message. Mais quand le patron de la CGT Mine Énergie dit qu'il va s'en prendre aux élus qui soutiennent la réforme, couper l'électricité à ces élus-là et en plus et précise, mais pas à leur domicile, hein, juste à leur permanence.
On y viendra tout à l'heure. Martinez,
secrétaire général de la CGT, encourage, on a ce genre de climat.
Alors, les extrémistes en tout genre qui se grèvent sur ces mobilisations populaires surfent sur toutes les opportunités. C'est ce que nous expliquait aussi Alain Bauer, qui est spécialiste de ce genre de pratiques.
C'est la différence de la plupart des autres pays. On négocie d'abord et on se tape après. En France, on se tape d'abord et éventuellement, on négocie ensuite.
On a bien négocié quand même sur les retraites.
Je ne sais pas ce que pensent les syndicats. Non. L'État pense qu'il a beaucoup... Enfin, le gouvernement pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup négocié et qu'il a beaucoup dialogué pour arriver au point de départ qui était celui qu'il voulait une année près. Mais les organisations sont là. Alors aujourd'hui, on est dans un État nouveau. Depuis une trentaine d'années, on a des gens qui viennent surfer sur la manifestation et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la... revendications. Ce sont des gens qui viennent affronter la police, qui utilisent la manifestation pour l'affrontement et pas pour la discussion, la négociation ou la revendication.
Jean-Christophe Couvi, on les connaît, on les a identifiés sur les 1000 là, qui sont répertoriés. On sait à peu près à qui on a affaire.
En fait, on sait qu'on a à peu près 600 ultra-jaunes, comme on dit, c'est-à-dire vraiment les gilets jaunes qui sont très, très politisés, j'allais dire très remontés. Et après, c'est des black blocs, des autonomes anarchistes qu'on appelle dans le jargon les totos, et qui vont venir. Ils sont à peu près 300-400, enfin, c'est des prévisions. Mais encore une fois, c'est très compliqué, notamment sur les black blocs, c'est très compliqué, c'est très gazeux, en fait. Il n'y a pas vraiment de leader. Ils sont organisés bizarrement, en fait. C'est pas comme l'extrême droite ou l'ultra droite, par exemple, qui eux ont des leaders, ils ont des lieutenants, il y a toute une verticalité. Et là, pas du tout. Là, en fait, c'est vraiment avec des réseaux sociaux, c'est le darknet, si on se donne des rendez-vous, tout le monde sait à peu près quoi faire. Voilà, c'est vraiment, vraiment gazeux et très compliqué, à anticiper. Alors, on sait pas combien ils seront. Après, encore une fois, oui, il faut convaincre plutôt que de tout casser. Mais encore, faut-il que les gens qui viennent, ceux-là, les excités, là, moi, je les appelle, ils n'ont aucune revendication concernant les retraites, hein, en fait.
Oui, bien sûr, c'est ce que nous disait le spécialiste Alain Bauer juste avant. Juste un dernier mot, dernière question sur leur accoutrement. On a beaucoup parlé de la manière dont ils s'habillent. On imagine que maintenant qu'ils sont plus identifiables, plus facilement identifiables, ils ont perfectionné l'art de se fondre dans la foule. Là aussi, vous avez quand même le sentiment de pouvoir les identifier un peu plus facilement quand même. On a beaucoup parlé des parapluies à l'époque et puis les tenues noires caractéristiques, les chaussures. Mais ils s'habillent avec plusieurs couches, on imagine aussi.
Oui, c'est ça. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est d'être caméléon. C'est-à-dire qu'on arrive, on se mélange à la foule, il ne faut pas se faire détecter. Donc même des fois, on utilise des jolies jeunes filles, vous voyez, avec des sacs à dos, etc., qui ne sont pas forcément fouillées, parce qu'on dit, tiens, un joli minois, ça a moins de risques que d'une personne patibulaire, par exemple. Mais en fait, non, on voit que c'est complètement faux et que, justement, le coup des parapluies, si vous voulez, c'est de ne pas être identifié. Et il faut que tout le monde ait à peu près le même accoutrement. C'est pour ça qu'on les appelle les black blocs. Comme ça, ils ne sont pas très identifiables. Donc voilà, il y a plein de subterfuges, ils sont très malins. Et on aura nous aussi des policiers en civil qui sont disséminés sur le cortège, qu'on appelle la brigade d'information de voie publique, ou les collègues de la, notamment sur Paris, de la DRPP, direction du renseignement de la préfecture, qui ont l'œil aguerri et qui essaient justement de tout de suite faire passer des informations à la salle de commandement. Et après, on détache des collègues en tenue pour encercler, vérifier et interpeller si effectivement ils s'apprêtaient à commettre des méfaits.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jean-Christophe Couilly. Si vous voulez rester jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr, vous êtes le bienvenu. On va passer encore quelques secondes consacrées à ce maintien de l'ordre. Mais bien sûr, je vais me tourner vers Jonathan Sixou. On sent que cette fois, on est prêt quand même. Enfin, je veux dire, on a quand même un peu tout anticipé. Il y aura toujours la marge des incidents. Mais voilà, il y a quand même aussi 2-3 ans d'expérience maintenant, d'histoires récentes, malheureuses, qui ont aussi aguerri, d'une certaine manière, les forces de l'ordre sur ces questions.
J'oserais vous dire, Nelly, heureusement qu'on a tiré quand même quelques leçons d'un passé hyper violent en la matière ces dernières années. Je m'interroge, mais vraiment à titre personnel, des annonces faites par Gérald Darmanin, cette sorte de déballage, de montrer ses armes à l'adversaire, en quelque sorte, vous voyez.
Sur le fait de fouiller le périmètre à l'avance.
De nous dire que j'attends à la limite les adresses des buissons et des poubelles qu'ils vont. C'est étrange de alors. Je ne sais pas s'il se doit, il est obligé de dire ce genre d'opération. Moi, ça me surprend un peu. En plus, j'entendais Jean-Christophe Couvy avec intérêt nous parler de ce que fait la police comme d'autres opérations vraiment visibles, comme le déblayage des chantiers. Je pense à Paris et je me dis que là, ils ont un sacré boulot d'ici demain.
C'est vrai.
Parce qu'il y a des barres de des grilles de chantier, des barres de des
clous en béton. Tous les boulevards sont concernés. Hein. Ouais.
Ils auront bien du mérite, ils arrivent à nettoyer
le
un peu tout ça.
Le fameux matériel urbain.
Exactement.
Benjamin Morel, et sur la communication et le côté peut-être contre-productif de ce qu'avance Gérald Darmanin.
Oui, il y a une volonté de communication, parce qu'en réalité, il y a une volonté de rassurer, de montrer qu'on est sur le pont. Après, la manifestation de demain, il y aura peut-être des débordements, mais ce n'est pas la plus à risque, pour deux raisons majeures. C'est la première, elle est plutôt bien encadrée, et vous avez les syndicats dans l'affaire. Vous avez tous les syndicats dans l'affaire, avec leurs services d'ordre, etc., des partis politiques qui ont le leur. Donc là, au-delà de la police, il y a des interlocuteurs. Je vous rappelle que le gilet jaune, le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de service d'ordre et il n'y avait même pas d'interlocuteur. Donc organiser ces manifestations était un enfer pour la police. Là, ce n'est pas le cas. Seulement, il ne va pas y avoir qu'une manif. Il va y en avoir plusieurs. Et on va rentrer dans un cycle probablement de grève, de manifestations, avec potentiellement de nouveaux mouvements qui vont se greffer, parce qu'il n'y a pas que la question des retraites, il y a le pouvoir d'achat, etc. Il n'est pas évident que toutes les manifestations soient aussi bien organisées que celles de demain. Et donc, dans quelques semaines, il est possible qu'en effet, ce type de phénomène devienne un type de phénomène très, très problématique qui nous rappelle quelques autres manifestations.
On parlait des blocages. Parlons aussi des menaces. Les menaces sur les coupures de certains élus qui soutiennent ouvertement la réforme. Et puis des menaces, des intimidations aussi beaucoup plus personnelles. C'est ce qui est arrivé à un élu du Modem en Gironde qui a vu sa permanence taguée. Et puis je vous propose aussi d'écouter la réaction de Patrick Vignal. Lui, il est député Renaissance de l'Hérault.
Ils ne servent pas la cause des syndicalistes. Enfin, ils vont venir quoi? Ils vont venir nous couper les mains pour qu'on ne puisse pas voter. Enfin, aujourd'hui, le syndicat CGT est dans son rôle. Hein. Ils vont manifester demain, ils veulent faire évoluer la société, ok. Mais quand je vois ce syndicaliste nous menacer, quand je vois Philippe Martinez ce matin expliquer qu'il fallait visiter les maisons, les résidents des milliardaires, mais de qui se moque-t-on? Enfin, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont gagner en menaçant? Ils affaiblissent la cause syndicaliste et ils affaiblissent la cause politique. Donc je trouve que c'est mal connaître la démocratie en France et ça ne sert pas du tout le syndicat.
Scandaleux, certaines de ces actions, je parle des coupures, sont cautionnées par des partis de gauche. Tout à fait.
C'est exactement ce que je vous disais, disais à l'instant. On a demandé à la NUPES ce qu'elle en pensait. Réponse unanime, ne comptez pas sur nous pour critiquer des syndicats. Sandrine Rousseau a expliqué que ces violents prenaient les instruments à leur disposition et que c'était juste à la mesure de leur colère. On leur fournit des alibis, des excuses, des bonnes raisons. C'est pas la première fois. Hein.
Regardez ce que dit la CGT Mines. On va s'occuper d'eux. Si ça, c'est pas une menace, je sais pas ce que
alors,
c'est.
Quoi. Ça s'est fait en deux temps. D'abord, c'était une menace générale. Cela, on va s'occuper d'eux. Puis, comme quand même, ça a causé un certain émoi. Rectification, mais on n'attaquera pas leur domicile, hein, on s'en prendra juste à leur permanence. Et ça a déjà eu lieu, rappelez-vous, en 2018, contre des entreprises qui licenciaient, encouragées par Philippe Martinez, patron de la CGT, qui disait il faut qu'on amplifie ce genre de méthode.
C'est stupide, parce qu'en réalité, le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion sur la réforme. L'opinion, elle est cristallisée depuis 2019. Il convaincra probablement pas l'opinion que sa réforme est nécessaire, à tort ou à raison. Mais les syndicats n'ont pas gagné encore la bataille de l'opinion. Et notamment ceux dont les syndicats doivent convaincre l'opinion, c'est que leur mode d'action est légitime. Sur la grève, ça peut marcher. Même sur la grève longue, ça a déjà fonctionné lors de mouvements précédents.
Mais pas la peine de
en revanche, exactement. Ouais. Ce type d'action qui personnalise et qui crée des victimes, c'est-à-dire des victimes qui peuvent parler, qui ont un visage et qui ont des vrais problèmes, eh bien ça crée une forme d'empathie dans l'opinion. Du point de vue de la communication politique et du point de vue de la communication de crise, il n'y a pas pire.
C'est au-delà du stupide, je pense, parce que ce sont des messages terribles contre la démocratie auxquels tente de nous habituer la NUPES et LFI en particulier, jusqu'à l'Assemblée nationale. Hein, on assiste à parfois à un déni de démocratie. Et là où ça va plus loin, c'est que, dans une certaine mesure, ils surfent là aussi sur le principe, sur le mot d'ordre et l'opposition aux retraites pour autre chose. On voit bien que c'est un climat insurrectionnel qu'ils veulent instaurer. Oui. On voit bien que c'est avec les propos de je ne sais plus quel responsable de la LFI hier appelant à transformer la France en ZAD. Enfin, je veux dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
C'est parti autour de lui, la nouvelle chef des écologistes.
Et voilà. On voit à qui on a affaire. Et on voit bien qu'il y a. Et l'esprit vient d'en haut, hein, par le grand chef même, que l'esprit de démocratie peut être aisément bafoué.
Jean-Christophe Couvi est toujours là et il nous a écouté sur cette question des menaces. Réaction ?
Oui, bah écoutez, moi-même, je suis syndicaliste, hein, vous voyez, policier, syndicaliste, c'est pas antinomique. Je pense que il va falloir convaincre les Français. Et on voit bien que derrière, il va y avoir une manipulation pour faire monter la sauce en disant « Attention, les syndicats jouent leur va-tout, ils vont bloquer, ça va être la chienlit, ça va être à cause des syndicats ». Nous, encore une fois, on aime bien confronter argument contre argument. C'est-à-dire que le gouvernement propose effectivement un projet. Nous, on a des contre-projets, on fait des contre-propositions. Et il va falloir compter demain dans la rue, mais il va falloir compter aussi le nombre de grévistes dans l'État, sur tout l'État, parce que tous les grévistes ne vont pas forcément aller manifester. Donc ça, c'est important aussi. Mais après, voilà, attention à ne pas se faire entraîner, justement, dans cette petite manipulation à dire « Oui, regardez, il va y avoir de la violence ». Il bloque tout et donc voilà, la France va s'écrouler. Non, demain, encore une fois, c'est une démonstration. Nous, on est là pour attirer l'attention, pour renégocier, revenir sur des propositions.
Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été attentif et à l'affût de ce que disaient nos autres invités. On va se quitter momentanément, mais on reviendra pour parler de cette lutte des classes, au fond. Hein, Marine Tondelier, elle verrait bien les milliardaires disparaître tout simplement du paysage. On verra la réponse que lui apporte aussi Bruno Le Maire en l'espèce. À tout à l'heure. La toute dernière partie de 90 minutes info. Le débat reprend juste après. Le rappel des titres avec Mathieu Devez à nouveau.
L'essentiel des risques de coupure d'électricité est derrière nous. Le gestionnaire RTE se veut rassurant pour l'hiver. Invité sur France Info, le président du directoire salue la sobriété des ménages et des entreprises. Prudence tout de même en cas de période de froid longue et importante, car EDF doit débrancher prochainement plusieurs réacteurs nucléaires pour maintenance. Des restes humains découverts dans une canalisation d'un immeuble d'habitation de Saint-Priest, c'est dans la banlieue est de Lyon. L'alerte a été donnée hier soir par l'entreprise en charge de déboucher ces canalisations. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lyon et une personne a été interpellée. Au moins 14 personnes sont mortes dans le crash d'un hélicoptère à Brovary, près de Kiev. Parmi les victimes, un enfant d'une école maternelle et le ministre ukrainien de l'Intérieur. L'hélicoptère se rendait sur la ligne de front en pleine guerre avec la Russie. Volodymyr Zelensky déplore, je cite, une terrible tragédie et une peine indicible.
Merci beaucoup, toujours avec nos invités pour parler de la réforme des retraites, avec un sous-thème quand même dans les débats, c'est la lutte des classes qui revient au premier plan. Marine Tondelier, c'est la patronne des Verts, estime que financièrement on s'en sortirait bien mieux si on taxait les riches, et même encore mieux s'il y avait carrément plus de milliardaires, écoutez.
Ils sont 1%, nous sommes 99%. Comment ce système tient-il encore? Moi je vous le dis, comme l'aurait dit Étienne de la Boétie, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Alors non seulement mes baskets sont prêtes, les vôtres aussi, je le sais, non seulement nous allons manifester le 19 janvier, tous les jours qui suivront, mais surtout, puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires.
Alors, on se trompe de combat, répond en substance et sans surprise notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Je le redis, je suis profondément attaché à la justice, à la juste répartition des richesses. Et de ce point de vue-là, j'estime que le système fiscal français a permis mieux que beaucoup d'autres de lutter contre la montée des inégalités qu'on voit dans d'autres pays développés. Mais on finance le système de retraite, pas en taxant le capital. On finance le système de retraite grâce à des cotisations prélevées sur ceux qui travaillent. Et donc, ne perturbons pas un système qui fonctionne bien, qui repose sur la solidarité entre ceux
là,
qui travaillent et ceux
pour des
qui ne travaillent plus.
Mais
c'est un autre sujet.
Rien.
Et comme toujours, Oxfam confond tout.
Bon, voilà, en gros, elle a rien compris, c'est pas les vases communicants, hein, il nous dit.
Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « quand le riche devient pauvre, le pauvre est déjà mort ». Hein, c'est connu. Là, je pense, je veux pas faire la défense des dividendes. Le chiffre, il est de 57 milliards. C'est avec les entreprises françaises. CAC 40. 57 milliards de dividendes. Alors, c'est certain, ça fait tiquer, c'est pas bien. Où va cet argent? Bah, d'abord, il permet de faire tourner l'entreprise, d'investir. On va pas revenir là-dessus. Ça paye des salaires. Hein, c'est quand même aussi important. Et puis ensuite, il y a un système en France qui est la participation et l'intéressement. La participation et l'intéressement, c'est 6 milliards. Donc, c'est de ces dividendes, il y en a 6. Sur les 54, il y en a 6 qui vont vers les salariés, mais le problème...
À condition d'avoir plus de 50...
Vous avez raison, j'allais le dire. Le problème, c'est que c'est obligatoire pour la participation au-dessus de 50 personnes. Donc, il y a plein de PME, des petites entreprises qui n'ont pas les moyens. Et puis, il faut encore faire des bénéfices pour distribuer de la participation. Quant à l'intéressement, là, c'est un objectif qui est fixé par l'entreprise. Voilà, je vais vous intéresser à mes objectifs. Et malheureusement, alors encore, beaucoup de petites entreprises n'ont pas les moyens. Et on terminera par juste un point, c'est que vous avez beaucoup de salariés qui sont actionnaires de leur entreprise. Quand on a la chance d'être dans une grande entreprise, on a des actions qui sont distribuées. Puis à la fin de l'année, on se dit, bah tiens, ça c'est bien, mon patron m'a reversé un certain nombre d'actions ou de dividendes parce que j'ai des actions. Et que la bourse a monté. Là, on parlait de 2021 et non pas 2022, parce qu'il y a toujours un an de décalage. En 2021, la bourse a gagné 28% en France.
Amalgame grossier, selon vous, Jonathan Sixou, que fait Marine Tondelier ?
Oui, ça relève de l'ignorance crasse, de la bêtise la plus profonde. Et puis, le ton employé est terriblement inquiétant, je trouve. Je parlais tout à l'heure d'un climat d'insurrection qu'il distille dans la vie politique. Et la NUPES ne fait que ça depuis le début. Et je dis la NUPES parce que là, aujourd'hui, c'est les écolos. Hier, c'était la LFI. C'est monter les Français les uns contre les autres. Et il n'y a pas d'autre terme, selon moi, pour décrire leur ligne idéologique. C'est ça. Il y a forcément un coupable qui est azigouillé pour leur bonheur à eux. Et c'est ça que je trouve particulièrement effrayant. Et derrière ces grands chiffres impressionnants, en milliards, avec plein de zéros, etc., des dividendes et des fortunes privées, il y a des entreprises, des grandes entreprises et des millions d'emplois. Il n'est pas inutile de le rappeler
bien
de temps
sûr.
En temps.
Et puis un autre moment cocasse, quand Bruno Le Maire évoque ces multimillionnaires qui souhaitent venir payer les impôts, il leur dit « mais venez, regardez ».
Ah ben tant mieux. Et le Trésor public français accepte tous les chèques. Donc si parmi ces 200 millionnaires, dont je crois l'immense majorité est étrangère, s'ils veulent s'installer en France, ils sont les bienvenus. Ils ont droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. Je rappelle que quand vous êtes millionnaire en France, vous allez toucher un impôt marginal sur le revenu à 45%, c'est la dernière tranche, le taux marginal. Vous allez payer de la CSG à 9%. Et vous avez payé une surtaxe sur les salaires à 4%. Donc vous serez l'une des personnes les plus taxées au monde et donc vous serez heureux. Donc venez en France, croyez-moi, nous saurons vous taxer.
Mais il n'y aura...
Ça vous a bien fait rire. Benjamin Morel,
je ne sais pas quel est le degré d'ironie dans les mots.
Ils seront bien taxés.
Mais néanmoins, cette tribune de millionnaires est intéressante parce qu'en réalité, on a un tel delta aujourd'hui au niveau mondial, mais même au niveau français, entre les plus hauts revenus et les plus bas, qu'en effet, socialement, ce n'est pas à long terme tenable. Donc la remarque de Marine Tondelier est totalement caricaturale. Néanmoins, il y a un problème pour la cohésion sociale si on continue à avoir cet écart de salaire. Par ailleurs, on peut toujours dire les gens ont fait par leur travail le fait de devenir millionnaire ou milliardaire. Dans la plupart du temps, ils ont mérité. Donc il faut arrêter un petit peu avec ça. Il n'y a pas forcément de méritocratie dans l'argent aujourd'hui. Après, la gauche sur ce sujet se trompe quand même en grande partie de combat. Aujourd'hui, l'un des vrais problèmes en termes d'inégalité, c'est par exemple l'inégalité entre d'un côté les propriétaires et de l'autre les locataires. Si jamais je suis locataire de mon appartement à Paris ou si jamais je suis propriétaire, ça n'a absolument rien à voir à niveau de revenu égal. L'inégalité en termes de revenus aujourd'hui n'est pas la première inégalité. C'est vraiment l'inégalité en termes de patrimoine. Ça ne se joue pas entre milliardaires et millionnaires. Ça se joue souvent entre générations. Et on revient sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, entre les baby-boomers et les post-baby-boomers, il y a une vraie inégalité. Et celle-là, elle est socialement explosive.
Allez dire ça quand même aux Parisiens qui vont voir leur taxe foncière doubler l'année
52%
prochaine. 52%. Ça commence à faire un peu cher.
Oui, mais par rapport au loyer, malgré tout, bon.
J'entends. Et puis surtout pour la retraite. Une fois qu'on a payé son bien, on vit mieux à la retraite, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Judith Vintraud.
Marine Tondelier voudrait une France sans milliardaires. Venant d'où elle vient, parlant d'où elle parle, on aurait pu penser qu'elle souhaitait une France sans pauvres. Son choix en dit long sur l'idéologie, effectivement, Jonathan a raison, haineuse qui l'anime. Je ne suis pas sûre que ce soit l'ignorant. Je pense que la mauvaise foi, faisons-lui le crédit de sa compétence, je pense que la mauvaise foi explique tout à fait ce genre de discours. Il faut rappeler que tout ça vient du rapport annuel de Oxfam, ONG dirigée par Cécilie Foulon, l'ancienne ministre écolo du logement. Chaque année, nous explique que la solution, c'est de taxer les riches. Au passage, argument pratique, vous le faites une fois, vous n'avez plus de riches.
Accessoirement, elle ne croit pas du tout au ruissellement, elle, Marine Tondelier.
Ah bah non. Mais non, elle n'a pas bien regardé les chiffres, elle n'a pas bien regardé la diminution continue de l'extrême pauvreté au niveau mondial depuis 40 ans.
Éric, un dernier mot et puis on va s'interrompre.
Pour dire que quand on parle de ces fortunes de patrons qu'on montre du doigt avec envie parfois, c'est que c'est du capital d'entreprise, c'est pas leur fortune personnelle. Vous voyez, ils sont actionnaires de l'entreprise, certes, mais c'est quand même, comme vous voyez Bernard Arnault par exemple, bon bah c'est vrai que c'est la première fortune de France, je crois que 500 millions, non comme 500 milliards, elle a presque 500 milliards, il va pas vendre demain son entreprise et partir avec les 500 milliards. C'est vraiment un capital entreprise, c'est pas une fortune personnelle.
On reste ensemble dans un instant, nous retrouverons le démographe Laurent Toulemont. Il est démographe à l'INED et il nous parlera de ce fameux... baby crash qui s'est amorcé, enfin on l'a un peu caricaturé parce qu'il y a le baby boom, donc le baby crash, en tout cas on fait moins de bébés. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de notre avenir, de notre système de retraite à l'avenir? Et puis faut-il instiller une politique plus nataliste dans notre pays? Il nous dira quelles sont les clés selon lui. À tout à l'heure. Un nouveau thème à soumettre à nos invités pour cette toute dernière partie de 90 minutes info après le baby boom. Sommes-nous déjà dans une situation de baby crash? Et pourtant, regardez ces beaux bébés là. Non, franchement, ça fait plaisir. On a presque plus envie de débattre. Regardez ces beaux bébés qui s'affichent derrière. En tout cas, il y a des facteurs multiples à cette situation. On n'a jamais fait aussi peu de bébés que depuis le sortir de la guerre. C'est dire quand même des facteurs financiers, bien sûr, mais existentiels aussi et même générationnels. Vous allez l'entendre à travers ce petit micro-trottoir, comme on dit.
Il y a beaucoup de gens sur Terre, donc je me dis qu'en vrai de vrai, pour le moment, ça va.
Bah, il paraît qu'on est trop nombreux. Non, je ne fais pas de soucis pour ça.
Ça m'inquiète pas parce que je pense que s'il y a trop de personnes dans le monde, par rapport au climat ou quoi, ça peut être quelque chose de négatif, donc non, pas tant que ça.
Il y a un moment, il va falloir que la génération future prenne la place et que les choses s'installent en France et que ce soit correct.
Ça montrerait peut-être un pessimisme de la France. Mais je trouve ça dommage.
Je suis pas une grande fan des enfants, ils m'insupportent, donc moi ça me gêne pas.
Bonjour Laurent Toulemont, merci d'être en notre compagnie. Vous êtes démographe à l'INED, c'est l'Institut National des Études Démographiques. Est-ce que ça vous a frappé ce retournement, en tout cas cette inversion de la courbe? Que se passe-t-il au juste?
Bonjour, alors c'est pas tout à fait une inversion. On peut dire que depuis 2015 à peu près, la fécondité baisse en France. Elle avait atteint un maximum en 2010 et elle avait augmenté dans les années 90 et 2000. On ne parlait pas vraiment de baby boom à l'époque et là je crois que c'est un peu prématuré de parler de baby crack. La fécondité a baissé, elle est maintenant à 1,8 enfants par femme, mais ça reste un niveau assez élevé. Donc je crois que en termes de nombre de naissances, on est effectivement à un niveau historiquement bas, mais en termes d'enfants par femme, on a été plus bas au milieu des années 1990 et c'est remonté à après, et depuis une cinquantaine d'années, on peut dire que la fécondité est grosso modo constante en France.
D'accord, donc ce n'est pas un facteur d'inquiétude du tout pour vous. Pourtant, c'est un facteur déterminant, la natalité, pour la sauvegarde et l'équilibre du système des retraites, non? Sinon, on avance un peu en terre inconnue pour la suite?
Alors, c'est un facteur important, mais d'abord pas à court terme. Hein. Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils seront actifs dans 20 ans, ils seront retraités dans 65 ans. Donc, on a plutôt aujourd'hui, il y a eu une grande difficulté dans le système de retraite au milieu des années 2000, quand les premières générations du baby-boom, qui sont nées en 1946, ont atteint l'âge de 60 ans. Donc aujourd'hui, le système de retraite, il n'est pas mis en danger, mais disons qu'il y a un challenge à cause de l'augmentation du nombre de personnes âgées, et ça, c'est plutôt bien, hein. Il y a plus de personnes âgées parce que la mortalité recule, les gens vivent plus longtemps. Donc la population active en France, sur le moyen terme, elle va rester constante, elle va peut-être, la population en âge active va peut-être diminuer un tout petit peu ou augmenter un peu, ça dépendra du solde migratoire ou ça dépendra des évolutions de la fécondité à l'avenir, mais on est vraiment dans une situation où le nombre d'actifs va rester à peu près constant. Alors il y a la question de l'activité féminine, il y a la question du chômage, il y a la question du travail des jeunes, surtout du travail des seniors, mais on n'est pas du tout en France dans une situation où la population active devrait diminuer beaucoup à l'avenir et où le système de retraite serait mis en danger. D'accord. Par une diminution du nombre des actifs.
Parlons du facteur migratoire que vous avez évoqué, le solde migratoire, comme on dit en termes démographiques. Est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il est vraiment dans le positif ? C'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées que de sorties ?
Alors, l'INSEE estime le solde migratoire à partir des enquêtes de recensement. À cause de l'épidémie de Covid, il n'y a pas eu d'enquête de recensement en 2021. Donc, les estimations actuelles de l'INSEE sont à 160 000 de solde migratoire constant, ce qui est probablement élevé parce que, justement, à cause de l'épidémie de Covid, les frontières ont été fermées. Donc, il y a probablement une diminution du solde migratoire, mais on n'a pas encore les éléments. Il faudra attendre d'avoir les résultats de la vague de recensement de 2022 et peut-être 2023 pour en savoir plus.
D'accord, on va sonder nos invités. Je reviens vers vous. On parlera peut-être de la politique nataliste tout à l'heure. Première réaction, Judith Weintraub. Il nous dit que ce n'est pas si grave que ce qu'il paraît, en fait. Hein.
Oui, il est certainement mieux à même que moi pour l'évaluer. Donc, je ne me hasarderai pas à le contester. Mais je trouve cet altruisme des gens jeunes qui renoncent à faire des enfants très angoissant, très inquiétant et très triste, en fait. Alors, on parlera après des conditions matérielles qui peuvent faire qu'un pays a une natalité meilleure. Ça a été le cas de la France quand elle avait une politique familiale digne de ce nom. Ça joue aussi, mais cette éco-anxiété ne me paraît pas une bonne nouvelle.
Mmh. D'accord. Même constat, Jonathan.
Le mot employé par Judith est le bon. C'est triste, mais c'est le climat ambiant est triste. Les gens ne sont pas très joyeux. Les perspectives d'avenir sont un peu tristes, elles aussi. Donc, tout ça correspond, ces chiffres. Alors, si le solde est bon entre les naissances et les décès, comme nous l'a dit monsieur, tant mieux. La différence est de 161 000. Un pays qui ne fait plus beaucoup d'enfants, c'est un pays qui va pas bien. C'est un pays qui a le moral en berne, précisément, pour un faisceau de facteurs qu'on pourra peut-être détailler tout à l'heure, mais les conditions de vie, la rémunération, etc., sont à mettre dans la balance.
Et cette phrase qu'on entend pratiquement dans toutes les conversations qu'on a avec des gens plus jeunes, il y en a toujours quelques-uns autour de nous qui nous diront, mais qui a envie de mettre des enfants au monde dans ce monde-là ? C'est un peu le discours.
On peut l'entendre. On ne peut pas dire que ces dernières années aient particulièrement eu tendance à nous rendre particulièrement optimistes sur l'avenir. Donc c'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais après, je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez un effet générationnel, etc., que ces gens, in fine, n'auront pas d'enfants. Et donc il y a une responsabilité de l'État.
C'est-à-dire il faut les revoir dans 10 ans, quoi.
Et puis il faut les inciter. C'est-à-dire, ça a été évoqué, mais la politique de François Hollande, la politique en 2015, a quand même sabré une partie de la natalité. Et ce n'est pas tout à fait neutre. Regardez ce qu'a fait la Hongrie, qui a une politique nataliste extrêmement onéreuse, il faut bien le reconnaître, mais qui malgré tout a produit l'effet. Alors ils n'en sont pas encore à renouveler les générations, mais très clairement par rapport à d'autres pays de l'Est, ils ont bien progressé. Si jamais on a une natalité en berne, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, regardez beaucoup de nos partenaires européens, ça met votre pays dans l'avenir, dans une situation compliquée. Donc c'est une politique de célébrité publique.
Laurent Toulemont, juste pour avoir un peu votre expertise là-dessus, le renoncement à une politique familiale digne de ce nom, est-ce que ça explique aussi ce qui se passe aujourd'hui ?
Alors, peut-être quelques rectifications. D'abord, le solde naturel aujourd'hui, il est de 60 000, hein, pas de 160 000. Donc, et le nombre de décès va augmenter avec l'arrivée des générations plus nombreuses aux âges de décédés. Donc, on va vers un solde naturel qui va devenir nul et une stabilisation de la population française. Ensuite, le niveau de la fécondité en France, il est élevé par rapport aux autres pays d'Europe, mais même par rapport à l'ensemble des pays développés. Et sur les perspectives démographiques à long terme, on n'est pas dans une situation de fécondité basse problématique, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays d'Europe, sans parler des pays d'Asie du Sud-Est. Donc, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui font moins d'enfants. Alors, ils attendent aussi, ils profitent de la vie. Peut-être qu'ils parlent, parle d'éco-anxiété, on parle de grands arguments. Mais quand il s'agit de faire des enfants, ce sont plutôt les questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, d'activité professionnelle des femmes, parce qu'il faut deux salaires souvent dans les couples, de conciliation et de disponibilité, notamment de garde d'enfants et de place en crèche. C'est ça les véritables enjeux. Sachant qu'en France, on a la chance d'avoir une école qui permet aux parents de travailler dès que les enfants ont 3 ans ou plus, avec des horaires qui sont larges dans la journée. On a des politiques de logement qui tiennent compte de la taille des familles. Donc, on n'est pas du tout dans une situation... La politique familiale en France, elle reste extrêmement volontariste, extrêmement puissante. Et la fécondité en France n'est pas basse.
Moi, j'en étais restée à ce 2,1 qui était un peu le baromètre absolu, 2,1 enfants par femme, et que si on était en deçà, c'était pas bon et tout. Bon, il nous dit finalement... C'est pas péril en la demeure, quoi, par rapport aux autres pays. Il se positionne beaucoup par rapport aux autres pays, notre spécialiste.
Oui, mais c'est important, évidemment, de se comparer en la matière. Mais je ne pourrais pas, comme Judith, avoir un avis d'expertise précis sur ce domaine de la natalité. Je remarque une chose, en revanche, pour rebondir sur ce que disaient Benjamin et François Hollande, qui a sabré dans cette politique nataliste. Pourquoi Hollande et pourquoi la gauche, en général, a un problème avec cette politique nataliste ? C'est parce que, historiquement, la politique nataliste est une politique pétiniste et ça pose toujours un petit problème.
Le PC à l'époque a voté contre. Et donc le PC, c'est pas toute la gauche entre guillemets qui a soutenu ce soutien.
C'est vrai. Judith Vintraud, vous n'étiez pas d'accord quand même avec le démographe sur la politique nataliste de
France. Oui, mais pour ces raisons-là, parce qu'elle a quand même beaucoup varié et s'est beaucoup dégradée sous François Hollande, et notamment il y a deux conceptions d'une politique familiale, où on la connecte au niveau de revenus, où on la déconnecte. Une politique familiale efficace, elle est déconnectée des niveaux de revenus. Or, c'était aussi ce qui chagrine la gauche, c'est que cette politique nataliste s'adresse à tous sans condition de niveau de vie. Mais en revanche, l'expert de l'INED a parfaitement de raison de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas monétaires, fiduciaires au sens propre du terme, qui sont les modes de garde et la façon dont c'est organisé, qui sont extrêmement importantes. Et je ne trouve pas pour connaître des familles qui ont des jeunes enfants dans des pays européens voisins, qu'on soit particulièrement performant en France sur la souplesse des horaires.
C'est beaucoup moins pire qu'en Allemagne, quand même.
Et justement, parce qu'il faut se comparer.
On ne vous a pas trop entendu sur cette question. Il reste une minute pour conclure.
Oui, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Si vous regardez en Allemagne, notamment, il y a un service de garde qui est très, très dysfonctionnel, ce qui explique également la mauvaise démographie allemande. En plus, vous avez des raisons culturelles. Là-bas, l'idée qu'une femme puisse travailler et élever ses enfants est moins bien acceptée ou était bien moins accepté par la société. Donc il y a des évolutions culturelles à avoir. En France, on est assez en avance sur cet aspect-là. Mais il y a également les services publics. Tous les débats qu'on a sur l'école, qu'on a sur la médecine, ça touche également la natalité. Si vous voulez faire soigner votre gamin qui n'a pas de médecin traitant, c'est embêtant. Si vous voulez le mettre à l'école, mais que l'école est dans une mauvaise situation, qu'est-ce que vous faites ? Donc tant qu'on ne repense pas de manière globale aujourd'hui nos services publics, on ne peut pas s'attendre non plus à ce que la natalité reparte.
C'est déjà la fin de 7h30 passée ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Laurent Tout-le-Monde. C'est une première pour ce qui me concerne de vous recevoir comme démographe de l'INED. À bientôt sur ce plateau pour certains d'entre vous. Et dans un instant, bien sûr, ne décrochez pas. Vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari et ses invités. Ce sera le début de Punchline. Je vous retrouve demain, 15h30, sur ce même plateau. Excellente fin d'après-midi en notre compagnie.